Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence extrêmement nombreuse, toujours très heureux de vous retrouver ici à Manosque et très heureux de vous retrouver pour cette conversation en compagnie de Jérôme Ferrari. Jérôme, bienvenue à toi, merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Très très heureux de te recevoir, je signale que nous recevons également Cécile et Aude qui vont traduire cette rencontre en langue des signes et on les remercie évidemment de leur présence. Jérôme, on va bien sûr parler en détail de ce nouveau roman publié chez Actes Sud à la rentrée littéraire qui s'intitule « À son image ». On reviendra bien sûr sur ce titre et sur beaucoup d'autres choses. Quelques mots sur le livre. Bon, bien sûr, vous représentez auteur de 8 ou 9 romans. Aujourd'hui, je crois que c'est le 8e livre « À son image ». On vous a bien sûr déjà lu autour de livres comme « Un dieu, un animal », comme « Où j'ai laissé mon âme », le sermon sur la chute de Rome, bien sûr, qui avait eu le prix Goncourt, plus récemment « Le principe ». Et puis donc maintenant, « À son image », un roman dans lequel l'héroïne disparaît de manière très précoce. Je peux révéler ce secret puisque la mort de l'héroïne Antonia se passe dès les premières pages du livre. Et puis ensuite, tu construis ton livre autour de la messe de funérailles qui lui est dédiée, qui est d'ailleurs donné par un prêtre qui est par ailleurs son parrain, et c'est évidemment quelque chose qui a une très grande importance dans le livre, puisque le personnage d'Antonia va petit à petit aussi, non pas s'effacer, mais se compléter par la personnalité de ce prêtre qui mène cette messe. Donc le livre est construit autour, comme ça, des différentes parties liturgiques de la messe, une messe durant laquelle on revisite finalement le destin d'Antonia, de sa Corse natale jusqu'à Sarajevo au moment du conflit en ex-Yougoslavie, et une vie qu'on revisite aussi par le prisme de la photographie puisque Antonia est photographe, et c'est évidemment l'occasion pour vous de donner une profonde réflexion sur la question du rapport au réel, de la représentation qui a lieu évidemment autour de la photographie mais qui est aussi à l'œuvre du point de vue littéraire et du point de vue de l'écriture. Et puis c'est un livre qui pose aussi des questions qu'on a déjà lues beaucoup dans vos livres précédents, vues d'une autre manière, autour de la violence, autour du rapport à la guerre, de la représentation de la guerre. Peut-être aussi un livre qui parle de transcendance, de foi et tout un tas de sujets qu'on va évidemment aborder avec vous au fil de cette conversation. Peut-être un petit mot sur la structure du livre. Je dis effectivement le personnage principal qui disparaît de manière très précoce dans le texte. Et puis ensuite, cette structure narrative construite autour de la messe, des liturgies. Est-ce que ce double mouvement était d'emblée dans le livre? Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont construites? Est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être du premier élan?
Non, le premier élan était plus... C'était plus une esquisse. Je savais que j'avais deux personnages principaux, en fait. Je savais que j'avais une photographe. Je savais aussi qu'elle allait mourir entre la page 2 et la page 4. Ça, il n'y avait pas de problème. Et j'avais son oncle, le personnage du prêtre. Après, moi, dans ma façon de travailler, je suis incapable de commencer à écrire une ligne tant que je n'ai pas la structure. C'est pas... Je ne vais pas employer un mot scolaire comme plan, parce que ce n'est pas ça, mais plutôt le dispositif narratif dans lequel je vais pouvoir installer tout ça. Et comme je savais qu'il y allait avoir une messe de funérailles, pour moi, les choses se sont débloquées quand j'ai pensé à organiser le livre de cette manière-là. C'est-à-dire à prendre chaque moment du rituel, donc à donner au roman une forme d'unité de temps et de lieu, à partir de cette unité pour pouvoir explorer différents endroits éloignés dans le temps, éloignés dans l'espace.
Il y a cette idée, effectivement, pendant la messe, de circonscrire un parcours ou un destin. Je crois qu'il y a un moment dans le livre où il est question des moments minuscules et fatals d'une existence. Il y a cette idée aussi de tenter de circonscrire une existence avec finalement presque l'échec programmé de cette dimension-là. Et en même temps d'essayer de comprendre les rouages les plus infimes, finalement, d'un destin ou d'une vie. Est-ce qu'il y avait cette idée-là aussi autour de cette messe pour Antonia?
Oui, ce qui m'intéresse beaucoup, que ce soit dans l'histoire des conflits ou dans l'histoire des individus, c'est des cheminements qui finissent par apparaître comme implacables et nécessaires, et qui sont en fait une succession de micro-événements qui amènent en général à une forme de désastre. Pour être un peu plus clair, je suis allé plusieurs fois travailler en Serbie pour rencontrer des gens, pour pas raconter n'importe quoi sur la guerre. Et ça m'a beaucoup surpris, enfin pas surpris parce que j'avais déjà entendu parler de ça, mais ça m'a beaucoup frappé la façon dont ils décrivent une situation qui se délite et la manière dont ils se retrouvent subitement du jour au lendemain dans la guerre sans comprendre vraiment comment ça s'est passé. Toute proportion gardée, parce que je ne veux pas faire de comparaison grotesque, c'est un peu de cette manière-là que j'ai vécu les années 90 en Corse et le passage lent et inéluctable de l'inimitié à l'échange de coups de feu et à la vingtaine de morts qu'on a eu pendant les années 90. Et ça, bien sûr, je n'écris pas pour en donner une explication, mais une simple description de quelque chose qui me paraît assez frappant.
Et justement, cette question corse, si j'ose dire, est-ce que tu as le sentiment que c'est finalement un ensemble de choses que tu attaques par différents plans, par différents endroits au fil de tes livres? Est-ce que la Corse revient de manière naturelle au fil des livres? Et est-ce que tu as l'impression de finalement construire une sorte de dispositif au fil des livres qui te permet d'apporter des focales différentes et des points de vue différents sur cette réalité dont on comprend aussi avec ce livre-là qu'elle est extrêmement complexe et extrêmement ambiguë finalement?
Oui, j'espère que ça apporte des points de vue différents, sinon ça voudrait dire que je me répète de manière un peu insistante. Sur la Corse en elle-même, moi c'est mon univers narratif, spontané quoi, hein. C'est pas, j'ai pas... Donc il m'est arrivé de le quitter pour où j'ai laissé mon âme pour l'Algérie ou dans le principe qui se passe en Allemagne, mais la Corse est toujours présente. En ce qui concerne le plus précisément l'histoire du mouvement nationaliste, je crois que je l'ai fait deux fois dans Balco Atlantico, donc c'est en 2008 et cette fois-ci je le fais de manière beaucoup plus frontale, je dirais. Les événements décrits suivent la chronologie réelle qui a été celle des années 80 aux années 90. Et puis, je le fais à partir d'un personnage qui fréquente ce milieu, mais qui n'en fait pas partie, puisque c'est Antonia qu'elle est journaliste. Elle le fréquente professionnellement comme journaliste et aussi par le fait que les garçons qui sont dans le mouvement sont ceux avec lesquels elle a grandi. Et je pense que j'aurais pas été capable d'être aussi frontal en 2009, c'est sûr.
Tu as évoqué tout à l'heure le fait que ce personnage était une photographe et que c'était aussi quelque chose qui était d'emblée dans ton esprit autour d'Antonia. Il me semble qu'il y a deux dimensions et on va bien sûr les développer. À la fois ce que tu évoques là, c'est-à-dire la qualité de témoin, et on verra à la fois sur la vie de la Corse, sur Sarajevo, qui a des enjeux évidemment différents, et puis quelque chose qui est proche de la question de la représentation, c'est-à-dire que de la même manière que Antonia est témoin ou tente de rendre compte d'une forme de réalité, toi tu te situes en tant qu'écrivain à un autre endroit. Est-ce que ces deux mouvements-là, ils étaient aussi des mouvements importants pour toi dans la création de ce personnage ?
Ah, c'était le deuxième qui était vraiment central, c'est-à-dire la question de la représentation. Et bien sûr, la question de la représentation, elle se pose avec la photographie, elle se pose aussi avec l'écriture, dans des termes qui ont des similarités. Moi, je pense que ce qui a été décisif pour l'idée du roman, c'est un travail que j'avais fait en 2015 avec Oliver Roé, et qui était un texte qu'on avait écrit tous les deux à partir d'un reportage fait en 1911 pendant la guerre italo-turque par un écrivain français qui s'appelle Gaston Chirot et qui avait été envoyé là-bas pour envoyer des articles, et puis il est parti avec il était amateur de photos, et en fait les journaux pour lesquels il travaillait ont publié toutes ces photos qui sont des photos très dures. Il y a beaucoup de photos d'exécutions d'exécution collective, de procès sommaire. Il y a aussi d'autres photos moins dures, parce qu'il était assez fasciné par l'Orient, de scènes de vie à Tripoli. Et on a vraiment passé des mois et des mois avec Oliver à en discuter de ce qu'il montrait, à nous demander nous aussi qu'est-ce qu'on allait montrer. On avait un reportage dans lequel il y avait à peu près 250 ou 300 photos, il fallait qu'on en choisisse 12. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Il y a des photos où on voit 14 hommes de tous âges pendus sur la place du marché au pain à Tripoli. On s'est demandé toujours, on les montre, on les montre pas. Qu'est-ce qui est obscène là-dedans, c'est de les montrer ou bien d'en parler sans les montrer et de rajouter des choses avec une pudeur un peu. Bon, donc on a décidé de les montrer, mais voilà, c'était. Et je me suis dit vraiment, c'est une question qui est tellement intéressante qu'il faudrait voir comment elle pourrait s'incarner dans une forme romanesque. Et sans ce travail avec Oliver, j'aurais pas eu l'idée de faire ça. Et une question qui m'intéresse depuis longtemps, et en termes littéraires, maintenant plus photographiques, j'ai mis en exergue une citation d'un livre de Coetzee que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elisabeth Costello. Et il y a un chapitre de ce bouquin qui s'appelle Le problème du mal, qui est consacré à la question de la représentation, mais pas en photo, en roman. Bon, excusez-moi pour la réponse un peu longue.
Ah non, mais on est là pour vous entendre.
Il faut que je développe un peu. Et donc, dans ce chapitre-là, Elisabeth Costello participe à un colloque et elle voudrait parler d'un roman anglais ou américain d'un auteur qui s'appelle Paul West, qui est un roman qui existe, alors que, bien sûr, Elisabeth Costello est fictive. Et dans ce roman... Et décrit assez minutieusement la façon dont les conjurés de juillet 44 contre Hitler ont été exécutés avec des raffinements de cruauté assez invraisemblables. Et l'idée radicale qu'elle défend, que Coetzee défend, je pense aussi, est que c'est une faute morale de faire ça, et que toute représentation du mal, pour le dire vite, même sous couvert de dénonciation, est avant tout une réitération du mal, et que donc cette représentation duplique ce qu'elle entend dénoncer et qui devrait disparaître dans le néant de l'oubli.
Peut-être on peut aussi tout de suite dire un mot de la manière dont Antonia évolue finalement avec la photographie. On va revenir à Sarajevo et à cette dimension de la guerre, mais elle a différentes étapes finalement dans sa vie de photographe, et notamment le début du livre où vous évoquez sa fascination pour les photos de famille. C'est un passage que j'aime énormément, parce qu'il me semble qu'il dit beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela. Il y a des natures de photographie, évidemment. Et en même temps, il y a quand même des choses qui sont valables pour tous les endroits sur la représentation. Peut-être nous parler un peu de cette dimension-là, les photos de famille, le début finalement du travail photographique d'Antonia.
Alors, la spécificité de la photo, évidemment, elle est là. On a une technique qui, pour la première fois, n'est pas une technique de copie, mais une technique de saisie. Des traces matérielles sous forme de lumière d'un instant vécu. Il n'y a que la photo qui est capable de faire ça, pas la peinture. Et ça instaure, me semble-t-il, un rapport au temps et une saisie de l'instantanéité qui ne pouvait pas exister avant la photographie et qui me semble assez ambivalent, puisque d'une part, la photographie atteste bien que quelque chose a été vécu, et en même temps, elle le présente, même si ça a été vécu il y a 2 secondes, sous la forme d'un événement irrémédiablement passé. Il y a donc à la fois la permanence du présent, mais qui est en même temps saisie comme reléguée dans le passé. Et pour moi, c'est ce qui rend l'usage amateur de la photo de famille si émouvant. Ça, c'est Anne-Marie Gara a utilisé une expression qui est parfaite pour dire ça. Elle dit que la photographie nous montre tout sous le mode du futur antérieur. Ça aura été. Et il y a donc quelque chose de profondément poignant et nostalgique dans cette fuite de l'instant qui est pourtant fixée sur le papier.
Vous parliez de... Je ne sais pas si on se tutoie dans la vie, on va continuer à se tutoyer.
Oui, tu avais commencé un peu, donc...
Ouais. Continuons sur le même mode. Je vais laisser peut-être les relais se faire pour l'interprétariat. Tu parlais de Sarajevo et du fait que tu étais allé sur place un certain nombre de fois. Est-ce que précisément, toi, dans ton travail, là, à cet endroit-là, tu arrives à évaluer aussi... comment est-ce que ce conflit-là, comment est-ce que Sarajevo se situe à l'intérieur de l'histoire du XXe siècle? C'est quelque chose qui est finalement très proche de nous, qui s'est passé en Europe. C'est finalement une guerre qui est aussi un symbole d'un moment donné, de la fin du début des années 90. Quel rapport tu as, toi, avec ce conflit? Comment est-ce que tu le travailles? Pourquoi est-ce que cet endroit t'intéresse? Quels sont les enjeux, les dimensions de ce conflit qui t'intéresse particulièrement?
Alors, d'abord, dans le roman, ce n'est pas la partie du conflit d'ex-Yougoslavie qui se passe à Sarajevo. C'est le tout début sur la guerre d'indépendance de la Croatie, qui est un moment qui m'intéressait davantage pour plusieurs raisons. D'abord, il semblerait que ce soit ce moment-là, hein, le tout début, où on peut supposer qu'il y a dans les deux camps des choses contestables. En Bosnie, c'est plus du tout possible de voir les choses comme ça. Enfin, la situation manichéenne est quand même un peu plus évidente et inratable en Bosnie, et ça me convenait moins. Par ailleurs, j'ai été un peu opportuniste parce que mes amis sont en Serbie. Donc, les soldats que j'ai pu rencontrer avaient fait cette guerre-là. Donc c'était pour ça qu'elle m'intéressait. Mais elle m'intéressait depuis longtemps parce que mon premier contact un peu violent avec la photographie de guerre, c'était une photographie qui était prise pendant ce conflit-là et en Bosnie. Et je m'en souviens, c'est une photographie de Ron Aviv qui est très connue, puisqu'il a suivi pendant assez longtemps un groupe paramilitaire qui s'appelle les Tigres d'Arkane, qui était présent à la fois pendant le siège de Vukovar et qui après, qu'il a été suivre en Bosnie. À Vukovar, il avait pris Arkane avec une photo assez célèbre où on voit Arkane au premier plan en train de tenir un bébé tigre qu'ils ont été prendre au zoo, comme ça. Et il y a tous ces hommes avec des cagoules et des kalachnikovs qui sont derrière lui sur un char. Ron Aviv raconte que Arkane aimait beaucoup cette photo. Il était très, très content du travail de Ron Aviv et c'est pour ça qu'il l'a laissé les suivre en Bosnie, où il a été moins content de ce qu'a fait Ron Aviv, puisque en Bosnie, il a minutieusement documenté les assassinats de civils, les exécutions sommaires, tout ce genre de choses. Et la photo, la première dont je me rappelle très très bien, on voit un paramilitaire serbe qui s'apprête à donner un coup de pied à des cadavres de civils bosniaques qui vient d'abattre, qui sont par terre. Et le détail que j'avais jamais oublié, c'était qu'il tenait il tient sur la photo une cigarette, il vient manifestement d'aspirer et il est comme ça. Il y a une forme de désinvolture vraiment atroce dans le geste. Et pour moi, cette image, c'était la découverte à 21 ou 22 ans que la guerre n'appartenait pas au livre d'histoire. Voilà. Et qu'il y avait une forme de réalité concrète là.
Et tu évoquais tout à l'heure la manière dont une représentation peut constituer presque une sorte une manière de rejouer finalement le mal, le reportage de guerre ou l'écrivain qui se consacre à ces questions-là. C'est peut-être une question un peu basique, mais j'ai quand même envie de t'entendre là-dessus. Il y a de la fascination-répulsion, cette question d'une forme de fascination ou d'intérêt, elle se pose aussi à la fois pour les personnages de reporters de guerre, pour toi en tant qu'écrivain, est-ce qu'il y a aussi une interrogation sur la manière dont cette question-là t'occupe, te requiert?
Ah ben là, je pense qu'on est, il y a des écueils sans nombre. Moi, la première fois que j'en avais fait vraiment l'expérience, c'était pour Où j'ai laissé mon âme, puisque le roman se passe en 57 à Alger et qu'il y ait question de torture. Et si on veut parler de la fascination pour l'exercice de la violence, pour la mainmise absolue sur le corps de l'autre, il faut quand même veiller à ne pas le faire soi-même de manière séductrice. Et on peut jamais être sûr qu'on ne le fait pas. Et c'est un écueil énorme, parce que ça veut dire qu'au lieu de parler de l'obscénité, à ce moment-là, on devient soi-même obscène. Alors, il y a des moments où il est très facile, où l'obscénité est patente, où on voit bien que les images sont offertes non pas à la réprobation morale du spectateur, mais à sa jouissance. Et on a toujours en nous ce risque-là de la jouissance à ce genre de spectacle. Et il faut veiller à ne pas faire ça soi-même, et je pense qu'on ne peut vraiment jamais être certain de réussir, parce que le nombre de façons dont on peut se montrer obscène est très élevé. On peut se montrer obscène parce que c'est trop cru, il y a des euphémismes qui peuvent être obscènes, des ellipses, donc voilà, j'ai essayé de faire très attention à ça. Et puis, c'est tout ce que je peux faire.
Il y a aussi le travail avec l'éditeur. C'est peut-être un secret de fabrication, mais je me souviens que nous avions parlé de ça ensemble. Et je crois que tu m'avais dit que sur certains livres, tu allais très loin dans l'écriture du livre avant de donner à ton éditeur. Et que précisément, pour Où j'ai laissé mon âme, tu avais eu besoin d'avoir un regard assez rapide de l'éditeur pour peut-être aussi te donner une sorte de, non pas de validation, mais en tout cas de regard sur cette question-là.
Marie-Catherine Vacher, qui est mon éditrice chez Actes Sud depuis le début, n'aime pas du tout lire les manuscrits en construction. Elle préfère qu'on les lui envoie quand ils sont terminés, pour pouvoir, ce que je trouve en plus judicieux, pour avoir une vue d'ensemble sur le projet. Mais moi, là, pour Où j'ai laissé mon âme, je lui ai effectivement demandé si, pour une fois, je pouvais lui envoyer les deux premiers chapitres, et je lui ai dit d'une manière très nette, dites-moi si j'ai écrit quelque chose de dégueulasse ou pas. Voilà, il dit, faites-le moi. Mais j'avais besoin d'un regard extérieur à ce moment-là parce que je ne savais pas moi-même ce que j'avais fait. Et j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Templon, qui avait fait son service militaire là-bas, et qui dit dans un documentaire de Patrick Rothman quelque chose qui est absolument pertinent, intelligent et incroyable. Il explique que lui, quand on l'appelait, il sortait du séminaire, et il a été nommé, il est arrivé dans une caserne, je ne sais où, en Algérie, et il explique que le premier jour, il a vu, dans la journée, pour la première fois de sa vie, des images pornographiques qui étaient collées dans la chambrée, et l'après-midi, quelqu'un se faire torturer. Et il raconte qu'il a passé l'après-midi accoudé avec d'autres de ses camarades à une balustrade dans une grange, à regarder ça, et qu'il n'arrivait même pas à comprendre ce qui s'était passé en lui, et comment tout ce qu'il savait du bien, du mal, de la morale avait été totalement balayé en un instant par la puissance de ce qu'il était en train de voir, et qu'il découvrait en lui-même la forme de fascination que ça pouvait avoir, et que dans les deux cas, on était face à une forme de pornographie.
Est-ce que vous diriez que le personnage d'Antonia, lorsqu'elle part à Sarajevo, après avoir été justement en lien notamment avec Pascal, son compagnon, qui est un nationaliste corse, est-ce qu'il y a l'idée de, non pas comparer les violences, mais de les éprouver à différentes échelles, est-ce cette dimension-là dans son parcours ?
Bien sûr, de les éprouver à différentes échelles. Et elle est assez injuste avec ce qui lui est familier, Antonia. Donc elle commence par travailler dans une antenne locale de la presse quotidienne régionale. Elle photographie des choses qui lui paraissent pas très intéressantes, des concours de pétanque, des élections de Miss, des fêtes patronales, et elle voudrait photographier des choses un peu plus intéressantes. Alors, ce qui est intéressant en Corse à cette époque-là, c'est les conférences de presse du FLNC, mais enfin, elle connaît tous les types sous la cagoule, elle trouve ça un peu embêtant et pas très exotique. Et je pense que dans mon esprit, elle développe une forme de mépris pour ce qui l'entoure, et elle idéalise beaucoup le type de travail qu'on peut faire sur un conflit. Et c'est pour ça qu'elle partira là-bas. Et bien sûr, c'était une manière d'éprouver plusieurs types de violence. Mon problème étant que il y a un type de violence que je connais par expérience, qui est celui de la Corse, et que j'avais absolument pas la moindre idée de ce qui s'était passé en Yougoslavie, et que là encore, on a un écueil énorme pour des histoires et des expériences de ce genre-là. Je pense que il faut vraiment rendre justice à l'événement, quoi, et aux gens qui l'ont vécu, et faire attention à pas imaginer n'importe quoi. Et à, voilà, là encore, je pense qu'il y a une forme de déontologie romanesque à l'œuvre là-dedans, et tous les passages qui se passent en Slavonie orientale sont, j'en ai pas inventé un seul.
Est-ce que justement on peut parler un petit peu, on va y venir aussi au personnage du parrain, mais peut-être parler un petit peu de ta langue, de ta phrase, qui est une langue extrêmement singulière, me semble-t-il, parce que elle est à la fois extrêmement ample, c'est-à-dire que c'est à la fois une phrase qui est relativement ample, même si elle l'est peut-être moins que dans d'autres livres que tu as pu publier précédemment, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse à l'intérieur de la phrase, quelque chose qui est de l'ordre de la précision, d'une forme de limpidité un peu clinique presque, j'ai envie de dire. Alors je sais que c'est pas facile de parler de son travail, vraiment de l'écriture, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de la manière dont ce travail-là, et peut-être la spécificité de ta phrase, de ta langue, peut amener aussi une forme de, je sais pas si on doit dire de certitude, mais en tout cas d'impression de justesse lorsque tu es avec ces personnages et avec ces enjeux très forts que tu viens d'évoquer.
Moi, quand j'ai vraiment mis, ça a été très très dur de commencer à écrire ce roman, parce que je crois que j'en étais arrivé à un point là en 2015 où j'avais la sensation, juste je pense, que je commençais à être trop à l'aise avec ma manière d'écrire, et que je commençais à sans doute à courir le risque d'avoir créé une espèce de machine à dupliquer un genre de phrase. Voilà. Et que, et comme ça me paraît quand même l'écueil mortel, hein, c'est-à-dire si on n'y fait pas attention, on peut arriver à cette situation ridicule où en quelque sorte on écrit plus qu'une longue série de parodies de soi-même. Je pense que c'était une volonté pour moi de changer totalement de style, mais de faire attention à pas laisser inconsciemment une forme de recette syntaxique se mettre à l'œuvre. Et j'ai recommencé, j'ai pas 12 ou 15 fois avant de trouver un ton qui me convenait, et où en relisant je retrouvais pas des espèces de ce que j'avais fini par identifier comme des tics, quoi. Voilà. Et pour ça il faut lancer une forme de logique interne du texte qui fait que l'écueil est dépassé, et ça a été assez long.
On voit le travail de l'auteur. Il faut qu'on dise un mot aussi de finalement ce qui ouvre aussi l'ensemble des parties. On va en venir à la messe, mais on parlait des photographies. Ces photographies, je sais pas comment on doit dire, manquantes d'une certaine façon. Chaque chapitre est ouvert par une photographie effectivement manquante et simplement un titre, une légende. Et des photographies finalement que tu réabordes après à l'intérieur du texte, comme pour essayer de tourner autour de ce trou noir. Là aussi, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as imaginé cette logique-là, et comment est-ce que l'écrivain se situe par rapport à ce vide ou à ce creux que tu places à l'entrée des...
Alors, la structure première, c'était celle qui correspondait aux différents moments du rituel, mais comme il y a eu effectivement une photo qui apparaît en général centrale dans chaque chapitre, j'ai eu l'idée de, assez tardivement dans la rédaction, de mettre simplement la légende de ce qu'aurait été cette photo. La question de mettre ou pas les photos se posait pas pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un roman, c'était pas un livre d'art. Et l'autre raison qui est quand même un peu plus encore plus rédhibitoire, c'est que la moitié des photos n'existent pas, puisque c'est des photos qui sont censées être prises par Antonia, et que la seule façon d'essayer de faire voir, mais on ne peut pas y arriver avec un texte. Il y a une immédiateté de l'image que le texte ne peut pas atteindre. On peut juste se contenter de donner une description. Et même pour les photos qui existent, j'ai à chaque fois mis des inexactitudes dans la description. J'ai pas décrit exactement les photos comme elles sont, et j'ai essayé de profiter du mode de représentation propre qui est celui du roman et où tout passe par uniquement la langue.
Tu as parlé de Gaston M, de Gaston C, le premier personnage. Il y a ce photographe aussi de Rista M. Hein. Je prends l'initiale comme ça m'évite de bafouiller sur le nom de ce photographe. Et il y a précisément une des photos, je crois, qui date du début du siècle, 14-15, à Corfou, où tu travailles aussi autour justement de cela. Peut-être tu peux nous parler aussi de...
Alors en fait, donc une sous-structure du roman, c'est qu'il y a trois chapitres qui sont consacrés à un moment de l'histoire du photoreportage. Le premier, c'est autour de Gaston C, qui est donc la contrepartie fictive de Gaston Chéreau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième, c'est un photographe serbe qui s'appelle Rista M, et qui est la contrepartie de Rista Marjanović. Et la troisième photographe, c'est Antonia elle-même, quand elle est dans les Balkans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Donc, comme je le disais, je suis allé plusieurs fois en Serbie pour mener des entretiens. Je me suis beaucoup appuyé sur les connaissances de mes éditeurs et de ma traductrice. Et j'ai eu un coup de chance vraiment, à la limite, honteux. Hein. Voilà. C'est que Melita, ma traductrice, elle me dit, mais tu sais, il y avait une de ses collègues qui est prof de français qui s'appelle Milica. Elle me dit, si tu t'intéresses à la photo, le grand-oncle de Milica, il était photographe. Il a pris des photos... Il est né en 1885, il est mort en 1965, et donc il a pris des photos de la Première Guerre des Balkans, de la Deuxième Guerre des Balkans, de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse ? Donc oui, j'ai dit un peu, parce que, et bien, dit, parce qu'on peut, je vais te montrer, c'est sa petite fille qui a toutes ses photos. Et donc j'ai passé plusieurs après-midi dans une cuisine à Belgrade, ce qui est d'ailleurs vraiment... Très, très, très dommage, parce que c'est une documentation des deux premiers tiers du XXe siècle, et c'est dans un carton, dans une cuisine à Belgrade. C'est un fond photographique exceptionnel, d'autant que Rista Marjanović est un bien, bien meilleur photographe que Gaston Chéreau. Et là, j'ai vu quelque chose dont j'ai appris des choses dont j'ignorais tout. Hein. Il se trouve qu'en 1915, l'armée serbe, avec tout le gouvernement, le roi, fait une retraite vers la Méditerranée à travers les montagnes albanaises en 1915, sans avoir rien à manger. Ils sont récupérés par la marine française sur la côte albanaise, et ils sont amenés à Corfou. Et je vois une photo qu'a prise Rista Marjanović là-bas. Et en fait, je croyais que c'était une photo de la libération d'Auschwitz. Je vois, il y a quelqu'un qui a typiquement qui en est c'est une photo de camp de concentration. Quoi. On voit un être absolument décharné, qui d'ailleurs Rista Marjanović met derrière la photo qu'il est mort 20 minutes plus tard. Et je me suis dit, c'est étrange. Hein. En 1915, à Corfou, il a pris la photo du XXe siècle.
Il faut qu'on parle de... J'ai dit tout à l'heure que le livre était un livre qui partait sur le personnage d'Antonia. Et j'ai le sentiment, en effet, que petit à petit, le personnage du prêtre, hein, qui est aussi le parrain d'Antonia, qui est par ailleurs celui qui lui a offert son premier appareil photo, prend de plus en plus de place. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. En tout cas, à la lecture, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort. C'est-à-dire que petit à petit, ce personnage-là, de par ce qu'il dit autour d'Antonia, mais plus globalement sur son positionnement, sur son rapport à Dieu, est un personnage dont on a l'impression, oui, qu'il prend de plus en plus de place. Est-ce que toi-même, c'est quelque chose que tu avais anticipé ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est révélé au fil de l'écriture avec la présence très forte de cette messe et de cette unité de temps là, dont tu parlais tout à l'heure ? Comment est-ce que le personnage du prêtre, du parrain, a évolué dans l'écriture du livre ?
Non, pour moi, dès le départ, il était clair qu'il y avait deux protagonistes qui avaient quasiment une place égale dans le roman, Antonia et son oncle. Là aussi, pour moi... Je vais réemployer une expression que j'ai employée tout à l'heure, mais il s'agissait aussi de rendre justice à une forme d'expérience qui n'est pas la mienne et qui est l'expérience de la foi. Et de le faire euh, en, en intégrant tout l'aspect de doute, de faille et d'humanité qu'il peut y avoir dans cette expérience-là. Et puis, il se trouve que moi, j'ai toujours été très, très intéressé philosophiquement par cet exercice qui est devenu désuet, qu'on appelle la théodicée, hein, et qui consiste à essayer de voir comment concilier l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant avec la présence indéniable de quelque chose, un certain nombre de choses qui ne vont pas très, très bien dans le monde qui est le nôtre. Et ça me paraissait vraiment intéressant d'essayer de l'aborder de l'intérieur comme une question urgente. La question n'étant urgente, bien sûr, que si on est croyant. Si on ne l'est pas, elle se pose même pas. Et là, j'avais quand même une jonction immédiate et assez évidente avec la pratique du photoreportage de guerre et le type d'image du monde que peuvent avoir des gens qui passent leur temps à photographier des choses de ce des choses de ce genre-là. Et donc, si tu veux, ce sont les deux volets sur lesquels ouvre la polysémie du titre.
Oui, parce que effectivement, à son image, c'est à la fois la photo et cette dimension finalement de la nature de l'homme, de son rapport à Dieu. On a le sentiment finalement que le personnage du prêtre, il est aussi finalement à un endroit où il est un homme souffrant ou un homme en deuil, je ne sais pas comment il faut le dire, et effectivement cet autre revers de la médaille qui est l'homme qui croit, ou en tout cas l'homme qui transmet cette fois qu'il apporte. Il y a une sorte de double identité de ce personnage-là.
Oui, parce que en fait, il fait le... c'est lui qui officie pour sa filleule et sa nièce, et qui se trouve en plus quelqu'un qu'il aime comme si c'était sa propre fille. Et en fait, c'est la mère d'Antonia, au début du roman, qui insiste pour que ce soit lui qui officie. Entre parenthèses, j'ai pu justifier sa demande en m'appuyant sur un fait qui était vrai chez moi, dans ma région en Corse, qu'il y avait plus de, pour un moment, il n'y avait plus de prêtres du tout, et il y avait un couvent de franciscains à Sartène, et tous les franciscains étaient flamands à l'époque, et très vieux. Et personne ne comprenait rien à ce qu'ils racontaient pendant la messe, et ils n'avaient pas l'air de se rendre compte que leur maîtrise du français était un peu défaillante, et ils faisaient des messes interminables, enfin bon, bref, et personne n'avait la moindre idée de ce qu'ils disaient, et puis ils étaient parfois pas tout jeunes, quoi, et je me souviens que ça leur arrivait de se tromper de prénom avec le défunt. Et comme tout le monde était très poli, personne ne disait rien, mais enfin c'était quand même des situations un peu... un peu gênante, et pire que gênante, même drôle, à un moment où... voilà. Et bien sûr, elle ne veut pas que sa fille soit enterrée dans ces conditions-là, et c'est pour ça que lui se sent tenu d'accepter, et le combat qui va être le sien pendant la messe, d'autant que pour lui, c'est le rituel qui doit porter toute la charge du deuil, c'est de ne pas contaminer ce rituel avec sa propre émotion et son propre chagrin qui est constamment... tapis là et qu'il n'arrive pas bien à maîtriser.
Tu disais que c'était l'expérience de la foi qui t'intéressait aussi avec ce personnage. Il y a aussi une expérience du langage biblique presque. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui, en tant qu'écrivain, est évidemment au cœur de ta réflexion aussi. Qu'est-ce que ça dit d'une certaine façon ?
Ah, mais moi, je trouve qu'il y a une poésie assez considérable dans les textes sacrés, hein, tous, hein, d'ailleurs. Hein, il y a des moments de pure poésie et une forme de solennité naïve qui me plaît beaucoup. Et moi, j'ai découvert assez tardivement que les paroles du rituel, et notamment celles des chants, puisque donc là, on est en Corse, la messe est chantée en... La messe est chantée en polyphonie, que les chants ont un texte extrêmement beau et extrêmement ambivalent. C'est pas du tout ce que ça a, ce que ça a eu tendance à devenir à un moment, comme dans La vie est un long fleuve tranquille, une espèce de joie béate devant l'idée que la personne qu'on aimait est enfin à côté du Seigneur. Quoi. C'est pas franchement ça, les textes. Hein. Il y a des choses assez atroces dedans. Je tremble, j'ai peur. Et cette ambivalence, elle me paraît évidemment beaucoup plus intéressante, riche et belle qu'une espèce de foi naïve et un peu niaise.
Je vais te poser encore une ou deux questions, puis ensuite je donnerai la parole au public pour partager le plaisir de discuter avec toi. Tu disais là à l'instant, tu racontais cette anecdote, et finalement le côté loufoque ou drôle finalement de certaines situations. Et il me semble que le livre, il est aussi à certains endroits sur ce moment-là, c'est-à-dire à la fois la tragédie, le drame qui peut tourner au ridicule, l'espèce de frontière très ténue qui peut exister entre la tragédie et une dimension peut-être, de drôlerie en tout cas. Et ça, tu disais tout à l'heure que tu avais travaillé peut-être à aller vers un autre type de langue. C'est aussi peut-être quelque chose que tu t'es davantage autorisé dans ce livre-là. Est-ce que tu le dirais comme ça ou pas ?
Non, peut-être, mais ça dépend. Dans le sermon sur la chute de Rome, il y a des passages un peu comme ça. Donc j'ai laissé mon âme, c'est un peu plus compliqué. D'en mettre, mais il y a un point qui me paraît assez essentiel, hein, c'est qu'il y a des aspects grotesques dans la pire des tragédies toujours, et que c'est pour moi le côté humain, au ras de l'humain, pas dans les grandes décisions idéologiques, etc. Qu'il y a des les anecdotes sont vraies, il y en a deux qui sont parfaitement vraies, c'est celle du c'était dans les années 90, un commando du FNC va faire sauter un c'était un truc viticole, je sais plus. Et quand ils faisaient ça, ils écrivaient danger miné sur le mur, parce que pour prévenir les gens de ne pas rester là, quoi. Et là, je sais pas ce qui s'était passé. Bon, bref, le truc explose pas. Et le lendemain matin, en première page du Corse Matin, il y avait danger miné avec une énorme faute d'orthographe. Et c'est moi j'avais trouvé ça très 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 très, très drôle, hein. Mais c'est pas y a pas un truc de moquerie là-dedans. C'est simplement qu'il y a toujours une espèce d'irruption du grotesque, quoi. Moi, la personne qui m'a le plus aidé, qui a fait la guerre en Yougoslavie, m'a expliqué la façon dont il a vraiment pas eu de chance, hein. Il a été appelé pour faire son service militaire en décembre 90. Donc, juste avant que ça tourne vraiment mal, mais comme le service militaire durait 18 mois, il a eu largement le temps de se retrouver au front. Et il me raconte qu'au début, il est amené par un ami, ils habitent en Voïvodine, il doit aller au centre de la Croatie, il y a un de ses amis qui l'amène, alors ils boivent en route et ils passent dans les villages, ils comprennent rien du tout, ils passent dans les villages croates et ils voient les Croates, ils voient des gens avec des fusils, et ils se disent, les Croates, ils aiment bien la chasse. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Après, ils se sont perdus dans la ville, ils sont perdus en ville, et quand ils sont arrivés à la caserne, le type dit, mais vous êtes des fous de vous promener avec une voiture immatriculée en Serbie, et l'autre dit pourquoi, et ça c'est vrai,
ouais. Oui, donc c'est effectivement cette dimension là et peut-être qu'on pourrait ramener, ça sera la dernière chose, puis vraiment je me tourne vers le public, sur quelque chose qui est aussi un mouvement dans le livre entre une forme d'élévation et quelque chose qui se situe effectivement dans le concret, dans le, je sais pas, on pourrait dire l'or et le plomb, enfin quelque chose de cet ordre. Ce double mouvement, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans le livre, qui peut se rapprocher d'une certaine manière.
Sans doute, hein. Moi j'ai toujours été très frappé, même en tant que lecteur, hein, je veux dire, hein, par la puissance esthétique possible de la juxtaposition et du contraste de choses qui sont très 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 différentes, hein. Et je me souviens que la première fois que j'ai dû faire l'expérience de ça, c'était avec un bouquin d'Hubert Selby. Je crois que dans Last Exit to Brooklyn, qui est quand même le truc le plus, enfin quand même un des textes les plus sordides qu'on peut imaginer, et qu'à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille me reposer ou prendre ou respirer une pâquerette, enfin bon, faire quelque chose de frais. Il y a bien sûr un énorme exergue de l'Ancien Testament qui donne à ce sordide toute sa dimension tragique, ouais, parce que sordide.
Merci Jérôme. Je me tourne vers vous. J'imagine que vous avez les uns les autres des questions, des témoignages de lecture, des remarques à faire à Jérôme. Oui, madame, on va vous apporter le micro. Si vous voulez bien lever la main pour qu'on vous situe. On y viendra, vous inquiétez pas. Allez-y, madame.
Je sais, ça marche pas. Ah si. Je voulais vous dire que j'avais lu votre livre, que je l'avais énormément apprécié. Mais pour moi, le thème central, et je n'ai pas entendu le mot pendant votre conférence, c'est la mort. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a la question de la mort qui est centrale et qui éclaire, si je puis dire, c'est pas très heureux comme terme, mais qui éclaire tous les personnages et tout leur rapport à la vie de ce fait. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, qui m'a interrogée, parce que je ne suis absolument ni compétente, ni je pratique la photographie, mais cette notion de la mort qui est liée à la photographie. Et il me semble que sans arrêt, vous revenez aussi là-dessus, et c'est ce qui m'a intéressée dans votre livre. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ce point de vue.
Ben oui, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce point de vue. Et puis, je pense que, inconsciemment, cette histoire de « ça aura été » dont je parlais tout à l'heure, c'est sans doute la raison pour laquelle il fallait, pour moi, que le roman commence par la mort du personnage. Et que tout ce qu'on voit de sa vie soit pensé à l'horizon d'une disparition qu'on connaît. Et vous avez tellement raison qu'une des autres exergues du livre, c'est une phrase merveilleuse de Mathieu Riboulet, qui est tirée des œuvres de Miséricorde, qui pour moi est la phrase qui, de la manière la plus précise, la plus concise et la plus juste, dit toute la différence entre la photographie et la peinture. Il écrit « la mort est passée, la photographie arrive après, qui contrairement à la peinture ne suspend pas le temps mais le fixe ». Et j'aurais bien aimé écrire ça quand même.
Et c'est un petit clin d'œil à Mathieu Riboulet par la même occasion. Monsieur, allez-y.
Oui, bonjour. Je suis corse.
C'est bien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous en félicite.
Absolument. Et vous avez parlé un petit peu de votre style et et l'évolution de votre style. Je crois que vous avez traduit beaucoup de textes corses en français. Et je voulais savoir... comment vous estimez l'héritage de la langue corse dans votre propre style et dans votre expression ?
Alors, il se trouve que j'ai traduit pas mal de textes, mais d'un seul auteur, hein, qui est Marco Biancarelli, qui maintenant écrit directement en français, ce qui a contribué à me donner un peu plus de loisirs qu'avant. Et là encore, je le félicite. Et alors, je pense qu'on peut difficilement imaginer une écriture qui est plus éloignée ou différente de la mienne. Et en plus, Marco écrit pas du tout de la même façon selon qu'il fait les textes en corse ou les textes en français. Et lui, il pousse vraiment à son plus haut point les capacités d'ellipse qu'il y a dans la langue et de frontalité, parce que Marco a un style très brutal, hein, je dirais, mais c'est pour moi une grande qualité. Et voilà. Donc je suis pas sûr que dans mon écriture à moi, on y trouve des traces. Mais en même temps, je l'ai tellement fait que ça me paraît étrange que j'ai pu faire cette expérience et qui m'aurait laissé indemne. Parce qu'il y a quelque chose de profondément formateur dans la traduction et de très intéressant. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une tâche qui est foutue d'avance. On ne peut jamais la faire correctement. Et il faut toujours essayer de trouver une façon de, au moins, de ne rater que ce qu'on juge pas très, très essentiel.
Aude est en train de traduire que la traduction est une chose... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... intervention, question ? Oui, monsieur, désolé, on vous fait faire des allers-retours. Peut-être si vous préférez faire passer le micro, je suis sûr que le public va être coopératif. Ça sera... Je vais juste reprendre à haute voix. Pourquoi dites-vous que la question du mal ne se pose pas pour les non-croyants, hein, c'est ça la question de monsieur. Monsieur pense qu'elle se pose pour les humanistes et...
Mais je suis absolument d'accord avec vous, raison pour laquelle j'ai pas dit ça. J'ai dit que la question de la théodicée ne se posait pas pour les... J'ai dit simplement que la question de la conciliation de la présence du mal sur Terre avec la bonté de Dieu est évidemment une question de croyants. Je voulais pas du tout dire que les gens qui avaient pas la foi, dont je fais partie, hein, par ailleurs, étaient par nature indifférents à la question du mal ou ne se le présentaient pas comme un problème. C'est simplement pas ce problème-là.
Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions, interventions ? Oui, allez-y, je vous en prie.
Je voulais poser une question. Savoir s'il y avait des lecteurs qui avaient eu autant de difficultés que moi à lire facilement ce livre, qui par ailleurs pose beaucoup de questions, je veux dire, avec la contradiction chez Long, qui est le prêtre, qui est prêtre, et tout le doute que la mort de sa nièce crée en lui, parce qu'il ne doit pas montrer sa douleur alors qu'il doit rassurer un peu l'auditoire dans l'église. Et en fait, vous posez plein de questions très, très importantes et très intéressantes, mais on ne peut pas... Je veux dire, ça nous renvoie tellement un questionnement que très rapidement, dans les premières pages, je me suis dit, mais je ne vais pas arriver à le lire d'un coup. Il va falloir que je lise en deux fois, trois fois. Oui.
Vous vous en êtes sorti ?
Oui, oui.
Merci.
Oui, mais je voudrais savoir s'il y a d'autres lecteurs qui ont... Mais je trouve que tous les thèmes que vous abordez, que ce soit la photo, la guerre, le doute, la foi, quoi, c'est très intéressant, c'est magnifique, mais on ne peut pas le lire...
La question de la densité, peut-être, Jérôme.
Non, mais j'en sais rien. Mais
c'est les thèmes. Il y a plusieurs thèmes.
Évidemment,
thèmes
je peux pas vous répondre. Mais de fait, dans mon travail, je fais toujours un travail et de juxtaposition thématique et de juxtaposition de fil narratif. J'ai jamais écrit dans ma vie un seul roman où il y avait simplement une seule histoire écrite du début à la fin. Et les difficultés qui sont les vôtres dont vous parlez, c'est très très subjectif, quelque chose de... Vous voyez, on peut pas... Vous pouvez... Il y a certains textes qui sont difficiles pour nous, d'autres pas. Enfin, heureusement, il y en a plein à lire. Mais c'est le moment de rencontre entre une personne et un texte. Je suis pas sûr que ça puisse simplement se réduire ou se résumer à une question de complexité thématique.
En plus, c'est la liberté. J'avais l'impression que vous alliez nous donner la solution un peu dans les prières.
Non, je donne pas de solution. Je suis pas philo. Alors, vous voyez, c'est pas.
Oui, mais je sais. Mais comme vous donniez les titres de morceaux de prière en latin, quoi, j'avais l'impression qu'il allait avoir presque une solution.
Une solution serait presque une faute professionnelle pour moi, je ne peux pas vraiment faire un truc pareil.
Mais on peut du reste, Jérôme, juste réagir là-dessus, puis je redonnerai la parole sur précisément l'idée de la question. C'est-à-dire que tes livres ne sont pas des livres à message ou des livres à réponse, mais sans doute davantage des livres à question.
Tu peux peut-être développer cette dimension-là. Je déteste les romans à message, pour une raison assez simple d'économie. Quand on a un message, on peut le livrer directement. C'est pas la peine de s'embêter à faire un roman avec des personnages pour livrer un message. Et donc, par contre, ce que permet le roman, peut-être bien plus que la philosophie, pour que j'arrête de dire du mal de la philosophie, mais c'est de présenter des problèmes complexes dans leur singularité et leur incarnation. Ce qui me paraît quand même beaucoup plus intéressant que de délivrer des messages. Après, par exemple, Antonia, mon personnage, elle défend une position radicale, qui est un peu celle de Cozzi, sur la photo, qui me paraît être une position légitime, possible, qui n'est pas la mienne. Et ça me plaît de faire apparaître des contradictions, des failles, des oppositions, sans en proposer de résolution dialectique, je dirais. Je vois mal ce qui peut le faire mieux que le roman.
Madame ?
Oui. Dans votre roman, le prêtre, qui est le personnage principal à côté d'Antonia, vous l'appelez toujours l'oncle d'Antonia ou le parrain d'Antonia. Vous ne lui donnez jamais de prénom. Alors moi, ça m'a beaucoup plu et touché. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu. Je voudrais savoir quelle est la raison de cette non-dénomination, disons.
Je suis désolé, je vais vous faire une réponse qui est extrêmement décevante, mais j'en ai aucune idée. Vous voyez, il y a des choses dans un roman qui relèvent de la décision, plus ou moins réfléchie, et puis d'autres qui s'imposent comme ça. Moi, de manière générale, je passe pas beaucoup de temps à me dire, tiens, j'ai un personnage, comment il s'appelle ? En général, le personnage, il me vient avec tout armé, avec son prénom. Et s'il vient sans prénom, et que j'ai pas un besoin impératif d'en donner un, je préfère le laisser comme ça. C'est tout à fait trivial, ma réponse, mais c'est aussi bête que ça.
S'il y avait une raison que je n'avais pas perçue...
Non, je suis désolé.
Bien, on va peut-être... Oui, encore une dernière question, madame, et puis on s'arrêtera là-dessus. On vous aura fait faire du sport, merci à vous. Si vous voulez bien faire passer le micro, madame, si vous voulez bien lever la main, qu'on vous situe. Allez-y.
Merci. Oui, bonjour, moi c'est pas une question, je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre livre
Et j'ai trouvé très fort ce prêtre qui est obligé de, qui souffre énormément et devant l'assistance, obligé de trouver des, les bons mots. Voilà, c'est, j'ai trouvé que c'était très fort. J'ai bien aimé votre livre.
Merci, merci beaucoup, merci.
Merci à vous. Je voudrais juste finir avec une toute petite chose, Jérôme, qui m'est venue là pendant la conversation. Est-ce que vous avez évoqué au fil de la conversation deux des trois exergues qui sont placés au début du livre et qui sont finalement des exergues qui délimitent presque le champ du roman. Il y a Dieu, il y a la mort, il y a le temps, il y a l'obscénité avec Kodzi, comme tu le disais tout à l'heure. Peut-être nous dire un mot de la manière dont ça fait sens finalement par rapport à un livre, ces exergues-là. C'est une manière de poser des jalons, c'est une manière de se mettre sous l'héritage des uns et des autres. Comment est-ce que tu l'envisages?
Oh, il doit y avoir un peu de ça. Il y a aussi une manière de rendre hommage au texte qu'on aime. Et puis, moi, je l'ai toujours vu ça comme un contrepoint qui indique une perspective possible sur le sens du texte. J'ai toujours beaucoup aimé ça, les exergues.
Bien, mais écoute, on s'arrête là. Merci beaucoup.
Merci
à son image, Jérôme Ferrari, en signature, là, tout de suite, maintenant. Merci, Jérôme. Et merci à Aude et Cécile, et bravo à vous deux.